Bonjour, ici Jo Cohen du blog La Voix de l'Ayurveda. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce blog dédié aux technologies de l'Ayurveda pour améliorer la santé. Aujourd'hui, je reçois Vincent Maréchal, praticien de l'Ayurveda. Vincent, bonjour.
Oui. Bonjour Jo.
Ça va ?
Oui, ça va.
D'accord. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la lecture du pouls. Alors, pour beaucoup d'Occidentaux, la lecture du pouls, c'est un petit peu le cœur de l'Ayurveda, puisque c'est à travers cette fenêtre que l'on comprend la physiologie et ses déséquilibres en termes de dosha. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire précisément sur cette lecture du pouls ?
Ce qu'on pourrait dire, c'est que la lecture du pouls, selon l'Ayurveda, c'est une des méthodes de diagnostic. C'est pas la seule, hein. Il faut bien préciser que c'est pas la seule, puisque les diagnostics ils se font par le questionnaire, par l'observation, et éventuellement par la palpation de la personne. Mais c'est vrai que la prise du pouls, une particularité, c'est que dans un temps assez court, elle permet de nous donner un ensemble d'informations assez précis de qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une personne. Et quand on prend le pouls, on se contente pas juste de prendre la vitesse du pouls, parce que pour beaucoup de gens, quand on dit « je vais prendre le pouls », pour eux, c'est tout de suite prendre le rythme cardiaque.
Oui, voilà. Oui.
On peut voir beaucoup de choses. Je dirais la liste est même assez longue. Après, tout dépend de la... à quel point on maîtrise la technique de prise du pouls.
Voilà,
mais on peut avoir pas mal d'informations dans un temps relativement court, et c'est bien après de s'appuyer aussi avec un échange, le questionnaire, tout ça, et l'observation, mais c'est quand même une technique très, très pratique et très fiable si elle est maîtrisée.
D'accord. Quand tu dis on peut avoir beaucoup d'informations, alors allons-y, parce que dans mon idée, ce que je comprends de la lecture du pouls, c'est qu'elle donne une idée du déséquilibre de Vata Pitta Kapha. C'est bien ça, ou
alors,
peut-être
ça,
qu'il y a plus.
C'est la base. Voilà. Hein.
D'accord.
C'est la première chose. Hein. Donc si je présente un peu tout ce qu'on peut savoir par le pouls, sachant que c'est pas forcé que tous les praticiens arrivent à déterminer toutes les choses que je vais énumérer, mais la première chose qu'on regarde effectivement, c'est l'équilibre des trois doshas, de Vata, Pitta et Kapha. Alors, on distingue deux choses. Il y a l'équilibre de naissance, ce qu'on appelle la constitution naissance, la Prakriti, on dit en Ayurveda. Et puis, il y a le déséquilibre du moment. Alors, quand je parle du déséquilibre de moment, c'est pas juste du moment de la seconde même. C'est un déséquilibre qui peut être installé depuis quelques semaines, voire quelques mois, ou voire plusieurs années. Hein. Voilà, donc la première chose, on regarde Vata, Pitta, Kapha, la constitution naissance, le déséquilibre, on va dire, du moment. On peut voir aussi les sous-doshas, les sous-humeurs, c'est-à-dire qu'il y a 5 types de Vata, 5 types de Pitta, 5 types de Kapha, donc il y en a 15 au total. Et on peut voir aussi le degré d'encrassement d'une personne. Alors il y a un terme pour ça. En Ayurveda, on appelle ça de l'ama. Ça va bien avec le français, ça s'amasse. Il y a quelque chose qui s'amasse, qui encrasse nos, on va dire, toute notre tuyauterie. Hein. J'utilise le terme tuyauterie, c'est pour dire aussi bien le tube digestif que les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques. Voilà, donc... On peut avoir une idée quand même assez précise du degré d'encrassement de la personne. On peut voir l'état des tissus. Ça, c'est la notion des datu en Ayurveda. Les tissus sont classés en 7 couches. En résumé, hein, parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon ça va prendre trop de temps et puis on va partir dans des considérations trop techniques, mais on peut voir par exemple l'état du plasma, de tout le liquide dans le corps, la qualité du sang, la qualité des tissus de chair, notamment des muscles, on peut voir la qualité des tissus adipeux, des tissus osseux, des tissus nerveux, des tissus reproducteurs, et la qualité aussi de ojas, ou ce qu'on appelle soma en Ayurveda, c'est-à-dire cette espèce de substance à peine qui n'est pas visible, mais qui donne au teint d'une personne un certain rayonnement et qui fait l'immunité du corps. C'est-à-dire que il y a une substance qui permet de nous maintenir en bonne santé. Elle est à la limite du manifesté, on pourrait dire. C'est à la fois quelque chose qui existe au niveau de la physiologie, mais aussi au niveau de la conscience. Je ne sais pas si c'est oui. très clair.
D'accord. Mais finalement, pour résumer, disons, une personne comme moi qui n'est pas expert dans la lecture du pouls, est-ce que je peux prendre mon pouls, est-ce que je peux voir quelque chose de simple, disons, par rapport à mes doshas, et comment ça se passe, on va dire?
Oui, alors, bien sûr, on peut prendre le pouls à un niveau très simple, et je dirais quasiment tout le monde pourrait apprendre comment prendre Vata, Pitta, Kapha. Voilà, mais disons que c'est à la fois abordable pour tout le monde, et puis c'est pas si facile que ça.
C'est-à-dire
qu'on peut se tromper si on n'est pas bien entraîné, parce que en fait, quand on prend le pouls, c'est-à-dire le pouls, pour être concret, il se prend au niveau du poignet, sur l'artère radiale.
D'accord.
On place trois doigts juste derrière le poignet sur l'artère radiale, et en fait on va appuyer dessus avec les trois doigts, c'est-à-dire l'index, le majeur et l'annulaire.
L'annulaire, oui.
Voilà. Et donc selon la pression qu'on va exercer, en fait on va avoir différentes couches du pouls, et l'information sera pas la même. Donc il suffit que quelqu'un ne touche pas tout à fait correctement, ou ne presse trop fort ou pas assez, et tout de suite les données changent, et donc la personne peut confondre son déséquilibre avec la constitution de naissance, et inversement, ou encore d'autres plans.
Ah d'accord, donc...
Voilà, donc il peut y avoir beaucoup de confusion.
D'accord, mais par exemple, pour prendre juste l'état de Vata, Pitta, Kapha, par exemple, je veux savoir si j'ai un déséquilibre de Vata en ce moment, parce que
oui, alors donc le déséquilibre du moment, voilà.
Voilà. Voilà, donc pour rester simple, donc on ne va pas aller chercher dans la constitution profonde.
Oui,
bah, donc savoir concrètement,
Il faut poser les trois doigts, comme je disais, sur l'artère radiale.
D'accord.
Il faut que l'index soit le plus proche de la main, suivi donc du majeur puis de l'annulaire.
Oui.
Il ne faut pas presser fort, il faut que la pression soit légère, et on sent en fait l'onde du sang qui passe sous les trois doigts. C'est pas une prise du pouls où on met qu'un doigt, parce que si on met un doigt, on perçoit pas très bien l'onde du sang. Le fait de placer trois doigts permet de sentir l'onde, la vague du sang. Et en fait, c'est cette vague du sang qu'on déchiffre. Donc, en résumé, le déséquilibre Vata, on va le sentir sous l'index.
D'accord.
C'est-à-dire sous le doigt qui est le plus proche de la main. Le premier doigt.
D'accord.
Ensuite, on va sentir le déséquilibre Pitta sous le deuxième doigt, le majeur. Et sous le troisième doigt, on sent le déséquilibre Kapha.
D'accord. Et ce qu'on ressent dans chaque doigt est identique, différent?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, quand ils posent leurs trois doigts, souvent ils sentent que le Vata. Et ils sentent que le premier doigt. Pourquoi? Parce que Vata, il est beaucoup plus clair. On le sent beaucoup plus facilement. Dans sa façon de bouger, c'est le pouls du serpent. La caractéristique, c'est comme un serpent qui se déplace, c'est un peu saccadé. Donc, le pouls de Vata est très facile à lire. Le pouls de Pitta, donc qu'on peut ressentir plus sous le doigt du milieu, il est plus rebondissant. On dit que c'est le pouls de la grenouille.
D'accord.
Qui saute. Et le dernier pouls, Kapha, souvent les gens ils n'arrivent pas du tout à le sentir, parce que il est très flou. Donc sous le troisième doigt, on sent quelque chose de flou, on sent rien du tout. Souvent, en fait, les 99% des gens, ils ressentent rien du tout.
D'accord. Et quelle est la conclusion qu'il faut en tirer quand on ressent rien du tout?
Ça veut pas dire que c'est pas là. C'est
Oui.
ça qui peut paraître paradoxal. Après, c'est justement des questions d'entraînement, de pratique. C'est pour ça qu'en fait, on peut pas vraiment s'improviser dans la prise du pouls. On l'apprend toujours avec un maître. Voilà. C'est surtout ça
Oui,
qu'il faut dire.
j'imagine que ça s'apprend avec un maître comme toi, tu as appris avec des maîtres en Inde, donc c'est pas quelque
Exactement.
chose qui s'improvise. Mais quand même, pour essayer de comprendre, pas seulement, voilà, parce que je te demandais une chose triviale, comme simplement savoir est-ce que j'ai un déséquilibre Vata Pitta Kapha, mais ça je peux le savoir par un questionnaire, les questionnaires sont quand même relativement bien faits, ils peuvent déjà aider dans
Alors
cette direction, mais le...
le problème du questionnaire par rapport à la prise du pouls, c'est que souvent quand on répond à un questionnaire, on répond non seulement selon son déséquilibre, mais aussi selon sa constitution de naissance.
Ah d'accord.
Ah oui, c'est pas toujours évident de voir la différence parce que on répond comment on se sent sur le moment.
Oui.
Mais on est très influencé de toute façon par notre constitution de naissance.
Oui, d'accord.
Donc, on n'est pas seulement influencé par le déséquilibre qu'on a sur le moment, il y a l'équilibre de naissance qu'on a. Par exemple, si je suis Pitta, je suis une personne qui a pas mal de feu de naissance, donc bah, je vais toujours avoir un attrait pour la fraîcheur, même
Oui.
si je suis en déséquilibre Vata ou Kapha, qui sont des déséquilibres de froid. Voilà, donc on est toujours influencé par les deux. Et la prise du pouls permet justement de bien mettre les choses au clair, de voir. Quel est le déséquilibre et quelle est la constitution d'essence
D'accord. Je vois.
Alors, ce n'est pas évident dans une conférence d'expliquer le tout parce
Non,
que.
mais le but, voilà, on est bien d'accord, c'est pas d'expliquer le pouls et c'est pas non plus de dire aux gens, allez-y, prenez votre pouls. Non, mais c'est pour essayer de comprendre la subtilité, je dirais, de cette technique, parce que en lisant quelques propos sur le sujet, j'ai vu que effectivement la lecture du pouls était pratiquée aussi dans d'autres, je dirais, systèmes de médecine, chez les
Chez les
Chinois,
Tibétains, les
par
Chinois,
exemple, les Tibétains qui ont repris une grande partie de l'Ayurveda, chez les Égyptiens, mais on l'a pratiqué aussi dans la médecine occidentale, mais disons jusqu'à une époque relativement récente, et puis après ça a disparu au profit je dirais, de diagnostics totalement technologiques. Voilà. Donc cette pratique a existé et de temps en temps on voit des médecins qui prennent le pouls, mais c'est juste avec la montre pour avoir une idée du rythme cardiaque. Donc ça c'est complètement différent.
Exactement, et ils prennent en plus la tension, et en fait, avec la prise du pouls ayurvédique, on peut avoir aussi une idée assez précise de la tension sanguine. On peut avoir une idée de la pression artérielle, et aussi de la tension nerveuse.
D'accord.
Ouais.
Alors, toujours pour cette prise du pouls, ça veut dire que quelqu'un qui prend le pouls le matin, aux heures, disons, kapha du matin, aux heures
Qui se prend
pitta de
soi-même
la
le
nuit,
pouls ou qui...
oui, quelqu'un qui se prend le pouls, il va sentir des différences, il va...
Ben bien sûr, à chaque moment de la journée ou après chaque activité qu'on fait, si on prend le pouls, ça change. Par exemple, si je viens de prendre un bain chaud et je prends mon pouls, ben il sera influencé forcément par le bain chaud. Si je viens de prendre un gros repas, eh bien le pouls va clairement changer. Même toute activité, même minime, change le pouls.
D'accord.
Chaque fois que la physiologie intègre une nouvelle expérience, le pouls change.
D'accord.
Mais le moment le plus propice pour prendre le pouls, c'est le matin à jeun, pas tout à fait au réveil, un petit peu après le réveil. Parce que si on est encore dans l'énergie du sommeil, on a un pouls très endormi. Mais on se réveille, on attend quelques minutes, le temps de se lever, de faire quelques pas, de prendre quelques respirations plus profondes. Et si on sent qu'on est suffisamment réveillé, là on peut prendre le pouls. Mais si on va prendre une douche, avant de prendre le pouls, ça change, ça fausse les données.
D'accord.
Ça force les données dans le sens où on n'a pas le pouls de référence. Le pouls de référence, il faut que la personne soit l'estomac vide, avec un métabolisme tranquille, c'est-à-dire que la personne ne se soit pas trop activée. Il faut qu'elle soit restée un moment assise ou même allongée. Voilà.
D'accord. Et ce pouls-là, c'est le moment, le pouls idéal, on va dire, quelque part. Pour une lecture, pour un diagnostic, bien entendu.
Le pouls idéal d'une personne, où on a une lecture assez précise de tout ce qui se passe, de quel est l'état du corps, de la physiologie, oui, c'est un moment de repos, l'estomac vide.
D'accord. Pourtant, j'ai vu beaucoup de médecins ayurvédiques qui prenaient le pouls à tout moment, c'est-à-dire en début d'après-midi, alors que la personne avait éventuellement pris son repas.
Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait. Quand on expérimentait, on peut lire le pouls, même si la personne a pris le repas, et ou alors on peut même prendre le pouls pour voir comment la personne digère, pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est un moyen de référence pour voir comment le corps il réagit aussi.
D'accord. Voilà, donc tout ça demande effectivement beaucoup de pratique et beaucoup d'expérience. Donc on ne peut pas s'improviser.
Ben, on dit, avant de commencer à apprendre, d'approfondir la prise du pouls, il faudrait prendre 100 000 fois, avoir pris 100 000 pouls.
100 000 pouls, d'accord.
100 000 pouls, voilà. Donc ça donne une idée de l'entraînement que ça nécessite pour un spécialiste. Hein.
D'accord. Et pourtant, je dirais, on conseille notamment comme une pratique spirituelle de prendre son pouls, simplement de mettre, comme tu dis, donc les doigts sur l'artère radiale au niveau du pouls et de fermer les yeux, par exemple, et de porter l'attention dessus. Donc c'est comme ça que moi je l'ai vu pratiquer un peu partout. Quel bénéfice on peut tirer de ce genre de pratique sans chercher à faire une lecture? Parce que là, on n'est plus dans le niveau analytique, on ne cherche pas à voir ce qu'on sent, la grenouille, le serpent ou le cygne. Qu'est-ce qu'on peut, est-ce que dans ce que tu as appris directement auprès des maîtres en Ayurveda, est-ce qu'il y a des instructions qui t'ont été données ou des explications par rapport à ça?
Oui, bien sûr, il peut y avoir des plans, on va dire, plus... plus subtil au niveau des énergies, et d'ailleurs je comptais en parler, c'est-à-dire que on peut prendre le pouls des chakras, on peut prendre le pouls des gunas de l'esprit, de sattva, rajas et tamas, c'est-à-dire les qualités de l'esprit.
Toujours à partir du pouls radial.
Du pouls radial, oui,
d'accord.
Oui, bien sûr.
D'accord.
Oui. Bon, quelqu'un qui se prend lui-même le pouls, c'est une façon de se mettre en connexion avec son niveau énergétique subtil aussi. Ça permet d'avoir un résumé de ce qui se passe dans le corps, dans la physiologie et dans les énergies. Y a des gens qui ont du mal à prendre leur propre pouls. Hein. Ça leur est un peu inconfortable. Et pour ces gens-là, en général, c'est parce qu'ils sont pas mal en déséquilibre. Donc, ils ont déjà du mal à être dans leur corps, à vivre ce qui se passe dans leur corps. Alors quand ils se branchent sur leur propre pouls, c'est pas très agréable. Et c'est la même expérience qu'on fait quand on prend le pouls des patients. Quelqu'un qui est vraiment en très bonne santé, à la fois physique et psychique et énergétique, c'est très agréable. C'est très, très agréable. On sent comme une onde de bienfaits qui nous envahit. Et quand on tombe sur des gens qui sont vraiment très mal, c'est désagréable.
D'accord, la prise du pouls est désagréable. Même quand on est spécialiste.
Oui, on le sent. Hein. On sent quand il y a quelque chose qui génère une belle énergie, une belle onde. Et puis quand c'est vraiment chaotique...
D'accord. Et même si cette personne, disons, a du mal à comprendre ou être connectée à ce qui se passe dans son corps, est-ce que le fait de le prendre néanmoins régulièrement modifie un petit peu des choses ou... Parce que justement, pourquoi on dit que c'est aussi une technique spirituelle? C'est ça que je voulais.
Tout le monde n'a pas ce discours, hein, que c'est une technique
spirituelle. Oui, non, spirituelle. Non, mais je me doute. Je me doute. Mais dans beaucoup d'endroits, c'est quand même pris pour ça. Hein, donc, c'est.
Et à partir du moment où on porte son attention sur des plans plus subtils, y a une espèce de. On pourrait dire transcendance qui se passe.
Oui, oui.
Et pour ceux qui ont, je dirais, ont un, dans le système nerveux une trop grande difficulté, je ne le recommanderais pas. C'est-à-dire, pour capter son propre pouls, si l'état du système nerveux d'une personne est trop perturbé, si son corps est trop encrassé, franchement, je recommanderais pas de prendre le pouls. C'est la personne doit consulter pour une prise du pouls. Il faut qu'elle ait les informations, mais se prendre elle-même, moi personnellement, je le conseillerais pas.
D'accord. Mais quand je disais donc se prendre le pouls, pas dans une optique de diagnostic, mais plutôt dans une optique de voilà, comme une technique de conscience quelque part. Hein. C'était plus ça de porter l'attention.
Il faut pas rester trop longtemps.
Oui.
Oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, il faut pas y rester trop longtemps dessus.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on prend le pouls, il faut que le moment soit assez bref. On va dire quelques secondes et pas rester tout le temps branché dessus.
D'accord.
Okay. Parce que c'est trop, ça peut perturber le système, ça peut perturber aussi la personne. Puis si elle cherche trop à être branchée dessus, ça peut créer même une certaine irritabilité.
Ah d'accord,
Il y a des personnes que j'ai rencontrées, quand elles prenaient le pouls, elles ressentaient une espèce d'électricité comme une décharge électrique qui leur était profondément désagréable. Pour d'autres, surtout si elles sont en bonne santé, c'est agréable. Il faut le dire.
D'accord. Non, parce que ce que j'ai entendu dire, c'était que pour certaines personnes, ou peut-être pour tout le monde, je ne sais pas, parce que justement, je m'adresse à toi parce que tu es plus expert dans ce domaine. C'est que la prise du pouls, même si elle n'a pas un but thérapeutique, elle permet à la conscience d'être informée quelque part de déséquilibre qui se passe au niveau de la physiologie, et à ce moment-là, la conscience peut mettre en route des mécanismes d'auto-guérison.
Oui, ce que tu dis est tout à fait vrai. Oui, c'est valable pour des gens quand même qui ont une conscience, je dirais, suffisamment yogique, parce que le principe de la prise du pouls, c'est quand même une méthode yogique. Et beaucoup de personnes se demandent, mais comment ça se fait qu'on puisse retirer autant d'informations par le pouls juste... Eh bien, en fait, je voudrais l'expliquer de deux façons.
Oui, ça m'intéresse.
D'abord, je voudrais prendre une analogie. Quand on prend le pouls, donc je l'ai expliqué, on se branche sur la vague du sang. En fait, c'est comme si on est au bord de la mer et on regarde les vagues au bord du rivage. Et si par exemple c'est la tempête au large, eh bien sur le rivage, les vagues elles vont être fortes, elles vont être plutôt déchaînées. Si c'est le calme plat au large, on verra très peu de vagues au bord du rivage. Et en fait, comme le sang il circule à travers tout le corps, le sang il passe par des micro-capillaires jusque dans les moindres tissus du corps, puisqu'il doit amener l'oxygène, les nutriments, et il véhicule aussi l'information. Et il véhicule l'information sous forme d'une vague. Et le fait de se brancher sur cette vague, en fait, ça permet de déchiffrer ce qui se passe. On a un résumé du corps, mais un résumé précis. Hein. C'est comme si cette vague, c'était une sorte de sinusoïde, et on la déchiffre. Donc ça, c'est sur un certain plan. Par exemple, pour les doshas, les sous-doshas, c'est cette vague qu'on déchiffre. Pour la technique de prise du pouls des datus, c'est aussi cette vague qu'on déchiffre. Sur la prise du pouls des chakras, c'est un autre principe. Voilà, mais en fait, on peut se brancher sur différents plans d'énergie. C'est un peu aussi le principe d'une radio. On va chercher des différentes longueurs d'onde. C'est pour
ah,
ça que
oui.
comment on touche le pouls, on va se brancher sur différentes longueurs d'onde. Donc, une certaine longueur d'onde, on va dire, elle va nous donner vata, pitta, kapha. Une autre longueur d'onde, elle va nous donner l'état des datus. Une autre longueur d'onde, ça va nous donner les sudoshas. Une autre, c'est l'encrassement. Enfin, voilà, c'est... Grosso modo, c'est le principe.
D'accord. Je garde à l'idée que c'est quand même complexe.
C'est à la fois simple et complexe. Si on reste dans une prise du pouls très simple, juste vata, pitta, kapha, je pourrais dire c'est simple, mais souvent, il peut y avoir des confusions, parce que les gens, ils ne sont pas justement sur la bonne longueur d'onde. Ils peuvent se tromper. Et c'est même assez fréquent que les gens, quand ils prennent leur pouls, ou quand un néophyte prend le pouls de quelqu'un d'autre, se trompe parce qu'il n'est pas tout à fait sur le bon plan.
D'accord, d'accord. Alors,
c'est pour ça que l'entraînement est primordial, et puis aussi d'apprendre avec des maîtres et d'être corrigé par ses maîtres.
Ah oui, oui, je pense que c'est important, surtout si on veut en faire son métier. En France, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la lecture du pouls, à ta connaissance?
Je ne pourrais pas vraiment répondre. Je connais des praticiens qui pratiquent la prise du pouls, mais si je devais parler de l'Inde, les médecins ayurvédiques en Inde, la grande majorité ne prennent pas le pouls.
Ah bon?
On peut tomber un peu des nus. Oui, oui. Mais la grande majorité ne prennent pas le pouls. Rares sont ceux qui prennent le pouls, beaucoup plus rares sont ceux qui savent maîtriser vraiment la prise du pouls. Oui,
c'est étonnant. C'est étonnant.
C'est très étonnant. mais c'est un constat, c'est une réalité. Hein.
Et alors, ils pratiquent comment alors? Ça veut dire qu'ils se basent que sur le questionnaire ou sur...
Ah, beaucoup sur le questionnaire, l'observation, oui, oui. Mais le questionnaire oral, hein, à l'échange.
Oui, d'accord. Oui,
c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup... La prise du pouls, c'est pas quelque chose qui est écrit dans les manuscrits. C'est une transmission, en fait, de maître à disciple. Donc, il faut trouver des maîtres qui ont une bonne maîtrise, qui veulent bien l'enseigner.
Oui.
Il faut passer suffisamment de temps à apprendre.
Oui, les Indiens n'aiment pas ceux qui viennent pour un week-end. D'accord, on ne peut pas apprendre en un week-end.
Et souvent, ceux qui vont à l'université apprendre l'Ayurveda, on leur présente la prise du pouls rapidement, mais les étudiants, après, ne se sentent absolument pas en confiance pour utiliser cette méthode. Beaucoup de médecins ayurvédiques classiques de l'Inde ne se sentent pas en confiance avec la prise du pouls. Ils ne se sentent pas assez sûrs d'eux. C'est-à-dire, si on n'est pas suffisamment bien entraîné, on ne peut pas être en confiance.
Ah oui, oui, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'ils développent surtout les autres techniques, c'est-à-dire l'observation, la palpation et ce dont tu as parlé. D'accord.
Surtout le questionnaire, l'observation. La palpation, c'est aussi une spécialité. Et la prise du pouls, ben, ils sont rares, ceux qui prennent très bien le pouls. Et moi, je me suis beaucoup focalisé d'ailleurs à trouver ceux qui prenaient mieux le pouls en Inde. Et je me suis aperçu que les médecins ayurvédiques qui étaient les meilleurs dans la prise de pouls, ils étaient tous des yogis, en fait. Des personnes qui ont une capacité à sentir les choses sur un plan subtil. Parce que ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. C'est quand on prend le pouls, on se met en union, on se met en yoga. Yoga, ça veut dire union.
Oui.
Non seulement il y a cette onde de sang qu'on déchiffre, mais il y a une résonance. Il y a une résonance. Donc il y a une résonance entre le patient et celui qui prend le pouls. Et forcément, les vases communicants sont ouverts et la personne qui prend le pouls peut ressentir ce qui se passe dans son propre corps, ressent dans son corps ce qui se passe chez le patient.
D'accord. D'accord. Donc, toi, tu as appris la lecture du pouls en Inde. Tu tu as aussi appris, je suppose, les techniques d'observation, que ce soit la langue ou sûrement d'autres.
Oui, bien sûr.
Les mains, les ongles, voilà, toutes ces choses. Donc, ça veut dire que ça t'apporte des informations supplémentaires ou ça vient seulement confirmer ce que te dit la lecture du pouls?
Bah, c'est toujours bien de vérifier avec le questionnaire. C'est vrai que, personnellement, hein, ça c'est, après c'est personnel, mais pour moi la prise du pouls c'est ma référence primordiale. Voilà, je fais plus confiance au pouls que à ce que me disent les gens. Ce que vont me dire les gens, c'est pour confirmer ce que j'observe dans le pouls.
D'accord.
Mais le pouls, quelque part, c'est bizarre ce que je veux dire, mais au moins il ne ment pas.
Oui, il est objectif.
Il ne cache pas quelque chose.
Oui, d'accord.
Voilà. Parce qu'une personne va me dire, ça c'est le grand classique, quelqu'un me dit, oui, j'ai un problème de foi. Mais cette personne me dit, j'ai un problème de foi parce qu'on lui a dit qu'elle avait un problème de foi. C'est parce qu'il y a un autre naturopathe qui lui a dit qu'elle avait un problème de foi. Moi, je vérifie dans le pouls et des fois, je m'aperçois, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, c'est pas que la personne a un problème de foi, elle a un autre problème. Donc, il y a ce qu'on se met dans la tête. On se met dans la tête qu'on a tel problème. Mais moi, quand je prends le coup, des fois, je constate que c'est pas tout à fait ça. Effectivement,
d'accord,
la personne a un problème, mais c'est pas tout à fait ce qu'on pense.
D'accord. Surtout quand on s'appuie sur des diagnostics venant de référentiels différents.
Oui,
voilà.
Ouais,
quand on
voilà.
Est la naturopathie.
Alors,
voilà. Bon. C'est toujours comme ça parce qu'en
plus, il y a des gens qui se font eux-mêmes leur propre diagnostic dans des livres.
Oui. Ben, l'automédication a toujours existé de tout temps, hein, donc c'est pas le problème. oui, donc je comprends bien. Donc c'est cet aspect subtil, comme tu dis, hein, c'est le yoga, c'est-à-dire, bon, ce que j'ai entendu dire, c'est que, bon, les praticiens de la lecture du pouls disent, voilà, on parle directement de l'âme du thérapeute à l'âme de la personne qui vient demander de l'aide. Donc c'est un discours...
Moi, je dirais pas l'âme.
Ah.
Je dirais pas l'âme, parce que l'âme, c'est plus absolu. On est juste à un plan plus manifesté. C'est une technique yogique, subtile, mais je dirais que ça ne parle pas de l'âme, ça part sur un plan de manifestation subtile.
D'accord, oui.
Donc en fait, tout dépend comment on se branche sur quelle longueur d'onde. Hein, on se branche, mais ce sont des manifestations subtiles.
D'accord. D'accord. Donc, en Inde, peu de thérapeutes aujourd'hui ou médecins ayurvédiques pratiquent la lecture du
pouls.
En France, c'est pareil ou...
Bah peu. Enfin, je peux pas parler pour les autres.
Oui.
Je les connais pas suffisamment bien. Mais après, tout dépend, je dirais, du degré de maîtrise de cette technique. Après, c'est aux gens de juger par eux-mêmes, hein, si c'est pertinent ce qu'on...
D'accord. Alors, après, c'est l'autoréférence. Voilà, ils se sentent
c'est
en confiance ou pas avec la technique. Mais toi-même, tu enseignes la lecture du pouls dans les cours que tu donnes dans ton association.
Oui, j'enseigne une lecture de pouls simple, c'est-à-dire pas sur tous les plans. D'ailleurs, il y a une particularité, c'est que même par rapport aux très bons praticiens de la lecture du pouls, on a tous plus ou moins une spécialité. Il y en a qui vont mieux capter tel plan ou tel plan. Par exemple, dans les médecins ayurvédiques en Inde, il y en a qui vont être très bons dans la prise du pouls des doshas et des sous-doshas. D'autres qui vont être très bons dans la prise du pouls des datus. Voilà, il peut y avoir en plus des facultés personnelles pour mieux lire un certain plan qu'un autre.
D'accord. Et parce qu'il existe aussi des médecins ayurvédiques qui sont spécialisés, on va dire, dans tout ce qui est déséquilibre d'ordre mental. pas dire maladie mentale, parce que peut-être le terme n'est pas tout
oui.
à fait approprié,
oui,
mais
oui,
que là aussi
oui.
lisent le pouls et ils font leur diagnostic par rapport au pouls.
Alors déjà, ceux qui sont spécialisés dans les maladies mentales, ils ne sont pas nombreux.
Oui, je sais qu'ils ne sont pas nombreux. Moi,
on
m'a été donné d'en rencontrer un, mais je l'ai vu prendre le pouls tout à fait normalement. Mais j'ai pas eu la curiosité à l'époque de creuser la question, c'était dans les années 90. Pour ça que je te pose la question.
Ben forcément, il doit s'intéresser beaucoup au goudin de l'esprit par la prise du pouls de Sattva, Rajas et Tamas. C'est évident.
D'accord, ouais. D'accord. D'accord. Et ça, on peut le faire donc aussi via des questionnaires, puisqu'il existe des questionnaires pour ça, mais on peut le faire aussi donc à travers le pouls, mais le pouls étant plus pertinent.
Oui, on peut dire que le pouls est pertinent et ne ment pas.
Voilà, surtout le pouls est plus objectif et plus neutre, on va dire.
Imaginons qu'on tombe sur quelqu'un de mythomane.
Oui.
On tombe sur quelqu'un de mythomane,
oui.
Il va nous raconter beaucoup d'histoires,
oui.
Mais il ne va pas forcément dire la vérité.
Oui, bon. S'il parle beaucoup, c'est qu'il a un gros déséquilibre vata déjà pour commencer. Et souvent, les déséquilibres vata peuvent être connectés avec des maladies de déséquilibre du mental. D'accord.
Et les chakras aussi interviennent dans le déséquilibre mental, hein. Si le chakra coronal, le septième au niveau du cerveau, va mal, forcément la personne sera perturbée au niveau du système nerveux, hein, et elle risque d'avoir des problèmes mentaux. Oui.
D'accord. Je suppose donc que tous ces niveaux de lecture qui se font à travers le pouls, donc utilisent peut-être des méthodes de lecture spécifiques, donc différentes. Quand on lit les doshas, c'est pas la même
Exactement.
Chose que quand on
ouais.
lit,
ouais.
voilà,
ouais.
Parce
ouais.
que de ce que j'ai retenu d'un cours que j'avais suivi à l'époque, c'est que quand on prend juste le pouls légèrement, on a les informations concernant je dirais le déséquilibre du moment, et quand on appuie plus profondément, on a la prakriti, donc c'est-à-dire la constitution de naissance.
D'accord.
Si
oui, alors
bien,
là, on oui. parle des doshas.
Oui.
On parle des doshas, mais si je dois parler de détails plus sur les différentes pratiques, par exemple la technique pour la prise du pouls des datus, des tissus,
oui.
elle est différente. On ne place pas les doigts de la même façon.
Ah, d'accord.
Si on prend les chakras, on va placer encore les doigts autrement. Et en plus, ce qui se passe, ça complique toute la chose, c'est qu'il y a différentes écoles et il y a différentes méthodes pour lire les mêmes choses. Voilà.
Rien n'est simple avec les Indiens.
Non, rien n'est simple. Quand on commence à rentrer dans le détail, ça devient beaucoup plus complexe.
D'accord. Parce que j'ai vu, disons que la technique la plus courante, c'est d'avoir les trois doigts donc pour prendre le pouls qui sont relativement rapprochés, mais j'ai vu des personnes qui au contraire mettent les doigts extrêmement éloignés les uns des autres pour prendre le pouls. Alors est-ce que c'est dans la norme ou est-ce que c'est pas dans la norme ou est-ce que c'est une technique spéciale pour voir des choses particulières?
Il y a plusieurs normes, il y a plusieurs écoles et des fois c'est assez déroutant. On va voir un autre maître de la prise du pouls et il place ses doigts complètement différemment.
Oui.
Sa façon de faire est complètement différente et on est obligé de revoir tous les paramètres.
D'accord. Finalement, ça nous ramène à l'idée que, la lecture, c'est un système qui intègre la conscience du thérapeute. Et c'est pour ça peut-être que c'est différent de l'un à l'autre.
Il y a la conscience, forcément, elle doit être là pour la prise du pouls, puisqu'on a besoin quand même d'une attention très focalisée.
Oui.
Mais au niveau de technique pratique, il y a quand même des grosses différences.
Oui,
les grosses différences d'une école à une autre, il y a différentes écoles, différentes branches. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans le temps et ça a pris ensuite différentes directions et il n'y a pas une école de référence en Inde et il n'y a même pas vraiment d'école. Ce sont des transmissions maîtres à disciples.
D'accord, donc oui, c'est plus compliqué. Et ce qui est enseigné dans les universités d'Ayurveda en Inde, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est
C'est
d'accord.
survolé.
Ah, d'accord, on survole.
Non, c'est survolé. C'est survolé. Ça dépend simplement du professeur qui doit traiter le sujet. Lui-même n'étant, s'il maîtrise pas, il va pas faire d'efforts et il va survoler. Et des fois, même s'ils ont fait 5 ans et demi d'études, ben ils vont avoir que quelques heures sur la prise du pouls et puis ça s'arrêtera là. Donc forcément, avec ça, les étudiants, ils se sentent ni en confiance ni motivés. Non, ça s'apprend pas à l'université ou au collège d'Ayurveda, ça s'apprend
Oui,
auprès d'un maître.
auprès d'un maître. Oui. Donc c'est ça qu'il faudra retenir. Hein. Le mot de la fin, c'est que la lecture du pou peut avoir un côté magique, parce que c'est vrai que quand on pose ses doigts et qu'on peut dire, tiens, voilà, telle personne a tel ou tel problème, alors qu'il faudrait probablement des jours et des jours d'analyse technique pour retrouver la même chose, ben c'est un instrument, je dirais, d'une finesse et d'une pertinence qui n'est pas discutable, mais qui reste d'un maniement complexe et finalement qui ne s'apprend que dans une relation de maître à disciple. Voilà, ben écoute, je crois que c'est
Oui,
le...
et pourtant il y a des livres
Oui.
sur ce sujet, hein.
Oui.
Mais même à travers les livres, moi-même quand je regarde ces livres-là, je vois difficilement comment on peut apprendre le poudre
Oui.
avec les explications des livres, hein, même s'ils sont précis, parce que c'est quelque chose qu'on ressent.
Oui,
Et
d'accord.
le ressenti et ce qui est expliqué sur le papier. C'est un peu de monde.
D'accord, voilà. De même qu'on n'apprend pas à méditer dans les livres, on n'apprend pas le yoga avec quelques
Exactement.
vidéos. C'est pareil. Je vois que pour tout, il faut apprendre. De même, d'ailleurs, dans la médecine occidentale, un chirurgien, il n'apprend pas la chirurgie par les livres. Il apprend avec un mentor. Donc tout ça est tout à fait, je dirais, dans la logique des activités humaines, notamment quand c'est en rapport avec le domaine de la santé, qui est clairement l'objectif de l'Ayurveda, donc de développer la santé par les mécanismes d'auto-guérison qui sont, je dirais, inscrits dans la physiologie. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour nous avoir fait goûter un petit peu les subtilités de la lecture du pouls. Je te souhaite
Merci.
une bonne journée et je te dis à bientôt.
À bientôt, Jo. Merci. Au revoir.
Merci d'avoir écouté ce podcast du blog La Voix de l'Ayurveda. Si vous l'avez aimé, cliquez sur le logo de votre réseau social préféré. Ou laissez un commentaire dans le cartouche réservé à cet effet. Et à bientôt sur le blog La Voix de l'Ayurveda.